Il est tout juste 14h30 à Paris, 12h30 à Bamako. Tout de suite, Afrique Midi, présenté par Paul Loncin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une, ces inondations qui touchent plusieurs dizaines de milliers de personnes à Kinshasa, conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale de la RDC vendredi et hier. Selon les informations d'RFI, le bilan est d'au moins 17 morts. Plusieurs quartiers de la ville sont encore sous les eaux. Le chef de la diplomatie française en Algérie, aujourd'hui pour poursuivre la reprise d'un dialogue apaisé entre les deux pays. Une visite de Jean-Noël Barrot qui fait suite à l'entretien téléphonique en début de semaine des président Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune pour tenter de sortir Paris et Alger d'une crise diplomatique particulièrement intense. Des organisations de soutien aux migrants inquiètes après la fermeture annoncée cette semaine par les autorités libyennes des bureaux d'une dizaine d'ONG. Elles sont accusées par le régime de porter atteinte à l'intégrité de l'État en favorisant l'installation de migrants sur le sol libyen. Et puis vous entendrez aussi ce vibrant hommage de Youssou N'Dour après l'annonce du décès d'Amadou Bakayoko vendredi. Les obsèques du chanteur malien ont lieu cet après-midi à Bamako. En République démocratique du Congo, Kinshasa se relève difficilement après des pluies diluviennes. Des trombes d'eau se sont en effet abattues vendredi et samedi sur la capitale. Il n'y a pas de bilan officiel, mais d'après des témoignages recueillis par RFI dans des hôpitaux et des morgues, il y aurait au moins 17 morts. En tout cas, des dizaines de milliers de personnes sont impactées. Des travaux ont été lancés en urgence pour dégager les caniveaux, reconstruire les routes endommagées et réparer les collecteurs d'eau. Patient Ligaudi, bonjour.
Bonjour Paul.
Patient dans le sud de la capitale, notamment à Mongafula, la situation reste critique.
Dans le quartier Matadi, Kibala, une famille entière a été ensevelie sous les décombres d'un mur qui s'est effondré. 5 personnes y ont perdu la vie, selon des témoignages d'habitants. Toujours dans ce même quartier, un autre drame. Un enfant est décédé, ses deux parents ont été conduits à l'hôpital dans un état critique. Jusqu'à 14h samedi, plusieurs corps étaient encore visibles, posés à même le sol. Plus à l'est, dans la capitale, c'est la rivière Njili qui est sortie de son lit. Sur les images, on voit des routes coupées, des véhicules piégés, des maisons envahies par les eaux. L'électricité et la desserte en eau potable sont perturbées dans ce quartier. Face à l'ampleur des dégâts, les autorités tentent de se mobiliser. Une cellule de crise conjointe du ministère de l'Intérieur et de l'Hôtel des Villes a effectué une tournée d'inspection samedi soir. Pourtant, l'alerte avait été donnée. L'Agence nationale de météorologie et des télédétections par satellite Metelsat avait publié des prévisions alarmantes pour la période de mars à mai de cette année.
Merci, patient Ligaudi. Renouer le dialogue, c'est une phase indispensable pour panser les plaies d'une relation déchirée. C'est donc l'objet de la visite à Alger du ministre français des Affaires étrangères aujourd'hui. Jean-Noël Barrot prend le relais après l'appel téléphonique entre les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune lundi dernier, qui avait repris contact après 8 mois de crise. Cela avait alors débouché sur un communiqué commun et une feuille de route. Il s'agit à présent de la mettre en œuvre. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Pour ça, Jean-Noël Barrot a donc rencontré ce matin son homologue Ahmed Attaf.
Oui, le chef de la diplomatie algérienne a accueilli Jean-Noël Barrot tout à l'heure à Alger. Les deux hommes se sont prêtés à une brève poignée de main sous l'œil des photographes avant de se retirer. Leur entretien a duré près de 2 heures. Il vient tout juste de s'achever. Le ministre français des Affaires étrangères va se rendre ensuite au palais d'El Mouradia pour une audience avec le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune. Un symbole fort puisque ce déplacement doit donc acter la relance de la coopération entre la France et l'Algérie sur les questions de migration, de justice, de sécurité ou encore d'économie.
Ces derniers mois, ils ont été marqués par une escalade des tensions qui semblaient inarrêtables. Et les sujets de discorde sont d'ailleurs nombreux.
Oui, la crise a d'abord été déclenchée fin juillet 2024 par des propos d'Emmanuel Macron qui apportait son soutien explicite à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, alors que l'Algérie soutient les indépendantistes du Front Polisario. Depuis, les exportations françaises vers l'Algérie ont drastiquement chuté en raison de restrictions qui pèsent lourd sur les investissements. Paris menace aussi de remettre à plat des accords bilatéraux après que l'Algérie ait refusé de recevoir certains de ses citoyens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français.
Lisa Fabian, merci à vous. Parmi les sujets qui ont donc miné cette relation France-Algérie ces derniers mois, il y a aussi la détention de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été condamné à 5 ans d'emprisonnement en Algérie. Au-delà de ce cas symbolique, 3 organisations de la diaspora algérienne, Riposte internationale pour une alternative démocratique en Algérie et Révolution du sourire, interpellent aujourd'hui le ministre français dans une lettre à propos de la situation situation de la liberté d'expression en Algérie. Aït Djoudi de Riposte International rappelle que sous la présidence d'Abdelmajid Tebboune, c'est tout l'espace public qui est verrouillé.
Il n'y a plus d'espace de liberté. La presse est domestiquée. Les journalistes sont muselés. Les syndicalistes sont jetés en prison. On a fermé les cafés littéraires. On a jeté en prison des écrivains, des intellectuels. Il est souhaitable que M. le ministre des Affaires étrangères français fera la même chose que ce que la France a fait pour Sansal, interpeller le pouvoir algérien sur les détenus d'opinion. Actuellement, il y a au moins 250 détenus. Il y a des universitaires tels que Miram Mouknach et un représentant de jeunesse tel que Mohamed Tejaddif. Il y a un journaliste tel que Blam Abdelwakil. Ce pouvoir n'épargne personne. Jeunes, vieux, femmes, hommes, tout ce qui échappe à son contrôle, tout ce qui ne s'inscrit pas dans la vision du pouvoir doit être réprimé. Et la seule réponse du pouvoir à la revendication populaire pacifique, c'est la prison, c'est la répression. Et c'est la violence.
Un propos recueilli par Amélie Tulé. Des ONG humanitaires accusées de déstabiliser la Libye. Mercredi, les autorités libyennes annonçaient fermer les bureaux d'une dizaine d'organisations internationales accusées d'activités hostiles. Médecins sans frontières et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés font partie des agences visées. Leurs programmes d'aide sont notamment perçus comme favorables à l'installation de migrants, ce qui constituerait une menace pour la société libyenne. Je vous propose d'écouter David Yambio qui a fui son pays, le Soudan du Sud. Il dirige aujourd'hui une petite organisation d'aide aux réfugiés en Libye. Selon lui, cette décision, c'est une catastrophe pour les milliers de migrants pris au piège dans le pays.
De ma propre expérience, puisque j'ai vécu en Libye, les conditions de vie étaient déjà très dures. Quand ces ONG étaient présentes, elles apportaient un minimum d'aide aux migrants, mais sans elles, cela va être une catastrophe. Aujourd'hui, il y a des milliers de Soudanais qui ont fui la guerre dans leur pays et qui sont coincés dans le sud de la Libye ou sur la côte près de Tripoli. Leur vie est très difficile, ils n'ont rien ni personne vers qui se tourner pour demander de l'aide. Ce sont des gens qui ont été victimes de trafic humain, qui ont survécu dans des camps de détention et qui ont besoin de soins qu'ils ne peuvent pas obtenir dans des hôpitaux publics libyens. Et il faut comprendre que la Libye accueille des gens qui vivent et travaillent, mais surtout des migrants qui sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas traverser la Méditerranée. La Libye sert de garde-frontière à l'Europe et c'est pour cela qu'il y a des dizaines de milliers de migrants bloqués dans ce pays sans rien.
David Yambio, interrogé par Alexandra Branjon. Donald Trump, qui continue à effrayer les économistes avec sa politique douanière agressive et ses taxes tous azimuts sur les produits importés aux États-Unis. Alors que la Chine ou l'Union européenne ont annoncé des mesures de rétorsion, un pays africain se démarque, le Zimbabwe, qui a annoncé hier suspendre tous les tarifs douaniers sur les biens en provenance des États-Unis. Le président Emmerson Mnangagwa espère ainsi que Washington reviendra sur sa décision d'imposer à hauteur de 18% le tabac, le fer et autres sucres zimbabwéens. Des avalanches de déchets qui inondent les routes, les trottoirs et gâchent la vie des habitants de Yaoundé et Douala, dans les deux plus grandes villes du Cameroun. Pour lutter contre cette situation insupportable, un collectif a décidé d'agir. Les nettoyeurs, comme ils s'appellent, regroupent une centaine de jeunes artistes, entrepreneurs et influenceurs. Richard Onanena a suivi leur première action hier à Yaoundé.
Combinaison de travail verte enfilée, bouton caoutchouc au pied, Rigobert Tamoua nettoie à l'aide d'une pelle les abords d'une route du quartier Ekounou. Le comédien vedette de la série Madame Monsieur transpire à grosses gouttes et respire difficilement derrière son cache-nez.
C'est pénible, mais c'est réjouissant de voir le résultat après, voir cet endroit maintenant, à quoi il ressemble après notre passage. Il y a de quoi être fier quand même.
L'initiative Les Nettoyeurs fait suite à une campagne de dénonciation de l'insalubrité des rues de Yaoundé où les poubelles envahissent la chaussée dans plusieurs quartiers. Pour Béatrice Doudou, entrepreneur, influenceuse, au-delà des images virales sur les réseaux sociaux, il faut agir pour assainir l'environnement urbain.
Si l'on veut réellement le changement, il va falloir passer à l'acte pour mettre la pression à l'État, mais pour sensibiliser aussi chaque citoyen pour dire que le changement commence par chaque citoyen.
L'action qui a réuni une centaine d'artistes et d'influenceurs à Yaoundé et Douala a aussi ses critiques. Des internautes leur reprochent de jouer le jeu du régime. Il n'en est rien, répond Exafran, le rappeur est un des initiateurs du mouvement.
Ceci est une initiative bénévole. Ce n'est pas juste ma volonté. Ça dit qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été contents de voir notre capital envahi par les ordures.
Selon les experts de la Banque mondiale, Yaoundé a besoin de près de 16 milliards de francs CFA par an pour la gestion des ordures ménagères. Mais chaque année, la ville peine à rassembler la moitié de cette somme. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Un dernier adieu à la voix qui a fait rayonner la musique malienne avec sa femme Mariam. Amadou Bakayoko est inhumé cet après-midi à Bamako. Le musicien est décédé vendredi, il avait 70 ans. De nombreux hommages continuent d'affluer. Pour une autre légende, Youssou N'Dour, chanteur sénégalais, l'Afrique perd un immense musicien.
Son franc sourire, je retiens ça, je retiens aussi le talent. Chaque fois qu'on entendait sa doigté, on savait d'où venaient énormément de choses dont on ne nous dit pas la vérité de leur source. Le blues, tous les grands guitaristes qui ont évolué dans la musique. Quand on entend Amadou jouer, on sent que la source vient de chez nous en Afrique. On revendique énormément ces musiques-là et il représentait ça et il nous révélait il nous confirmait que c'était la source.
Vous parliez de perte, qu'il a été un ambassadeur pour la musique malienne, africaine. En effet, il a participé, comme vous et d'autres, à faire connaître cette musique africaine au reste du monde.
Ah oui, c'est la musique africaine et la world music d'une manière générale a survécu. C'est d'une part grâce à lui, grâce à eux, parce qu'ils ont récemment, nous avons vu leur prestation aux Jeux Olympiques. Ça nous a encore rendu fiers. Effectivement, nous perdons un grand ambassadeur de la musique africaine, un pionnier aussi, quelqu'un qui dégageait de la bonté.
Youssou N'Dour. C'est rare quand un en arrive face une place à ces combats méconnus, voire méprisés par ses habitants. La capitale malgache accueille cet après-midi un événement de mouringue. Cette lutte traditionnelle apparue au XVIIe siècle sur la côte ouest se pratique aujourd'hui surtout dans le nord et le nord-ouest de l'île chez les populations sakalaves. Alors en faisant venir les meilleurs représentants de la discipline, les organisateurs espèrent redorer son blason. Sarah Teto a d'ailleurs pu assister à l'un des entraînements reportage.
Pieds nus, mains exceptionnellement protégées par les gants pour éviter les blessures avant le combat de dimanche. 6 des 12 combattants qui s'affronteront au Kianzani Kantou répètent inlassablement les mouvements.
Ma spécialité dans le mouringue, c'est mes poings. Je maîtrise mes adversaires avec mes coups, ils ne peuvent pas s'enfuir ni se protéger.
Lui, c'est Armand, 28 ans, dit l'éléphant. La tête d'affiche de l'événement mouringue y arrive. Une vraie bête de muscles, au visage cabossé, venue de Diego. Combattant professionnel, il vit de ses combats.
J'aime le mouringue parce que c'est une coutume malgache. J'aime le fait de gagner de l'argent et d'être célèbre. C'est moi la star. Il y a la foule qui m'acclame. Et après, ils me donnent 10 000 ariars, 20 000 ariars parce qu'ils sont satisfaits.
Le montant des cachets perçus est tenu secret, de même que ce que lui reverse son maître, Thierry Saïdani, propriétaire de la boîte noire à Diego, l'écurie des meilleurs combattants de l'île. Si Thierry a amené ses poulains dans la capitale, c'est d'abord pour faire évoluer les mentalités.
En fait, on a toujours classifié et qualifié le mouringue d'un sport de sauvage, alors que c'est un sport de respect, c'est un sport d'humilité. Et le mouringue, c'est une tradition ancestrale malgache. Ça ne peut pas rester un sport du Nord, il faut que ce soit un sport national.
Armand, quand tu cherches au corps, tu décales.
Des gladiateurs des temps modernes à la conquête du public tananarivien, une façon de rappeler aussi à quel point l'identité culturelle malgache est riche dans sa diversité. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
En football, la fédération guinéenne peine à sortir de la zone de turbulence qu'elle traverse. La sélection, en effet, est en difficulté dans les éliminatoires du Mondial 2026. Une grande partie de l'exécutif se rebelle aussi. Alors pour tenter d'apporter des réponses, le président de la fédération, Aboubakar Bouba Sampil, donnait hier sa première conférence de presse depuis son élection en janvier 2024. Thierno Diallo.
Et le président de la Fédération guinéenne de football s'est montré combatif et très optimiste sur notamment le sujet qui fâche les résultats des séries nationales. Bouba Dina Sampil.
En Coupe du Monde, on n'est pas encore disqualifié et nous avons un contentieux qui suit son cours au niveau de la CAN.
Mais le problème des séries nationales est un peu l'arbre qui cache la forêt en ce moment, confronté à d'énormes dissensions Le football guinéen traverse une zone de turbulence. Une motion de révocation a même été déposée contre le président, soupçonné de détournement de fonds et d'abus de pouvoir par un membre du COMEX. C'est que le patron de la FEGIFOOT met au compte d'une simple divergence de vue.
C'est notre division. On vit de ça depuis plus de 15 ans. Il faut qu'on change le cap, qu'on aille sur la base de la réconciliation au niveau du football.
Du côté de la presse sportive, on est resté sur sa fin. Des sujets tels que le présumé détournement d'équipement du Sili National au profit de l'ASCAL n'ont pas été abordés. Abdelhamid Bangoura, journaliste à 6 médias.
Honnêtement, je suis déçu entre contre-vérité et des questions qui ont été déviées, des questions pas répondues. J'ai plutôt eu l'impression que c'était un one-man show pour parler de personnes plutôt que de football.
L'Assemblée générale du 8 mai prochain aura valeur de test grandeur nature pour Bouba Sampil qui pourrait y perdre gros. Thierno Diallo, Conakry, RFI.
RFI, il est midi 45 à Conakry.
Afrique Midi, Paul Lancin-Spinelli.
Au programme des 15 prochaines minutes, cette technologie de captage de l'eau du brouillard leur a valu quelques moqueries avant de forcer finalement le respect et l'admiration au Maroc. Avec leur filet installé dans les monts de l'Atlas, un couple a réussi à fournir de l'eau potable aux villages environnants. Frédéric Garat vous raconte leur histoire dans l'Afrique en marche. Chemin d'écriture consacré également aujourd'hui à une figure de la littérature en swahili, Adam Shafi Adam et son roman Indocile, désormais traduit en français. Et puis à l'occasion des journées européennes des métiers d'art, Maria Afonso a rencontré Catherine Roman. Elle nous explique son métier de rotinière, un travail rare de l'osier notamment. Au Maroc, ils sont surnommés les moissonneurs d'eau. Un couple a eu l'idée, pour le moins étonnante, mais qui s'avère en fait brillante, d'installer sur les contreforts des monts de l'Atlas des filets qui captent l'humidité du brouillard. Elle est ensuite transformée en eau potable, puis distribuée dans les villages. C'est le sujet de l'Afrique en marche, raconté par Frédéric Carr.
L'Afrique en marche.
Sud-ouest du Maroc, dans la région de l'Anti-Atlas, Jamila Bargache et Aïssa Derem travaillent depuis des années avec leur fondation Darsimad au bien-être des populations, notamment celui des paysans et des éleveurs confrontés à une sécheresse persistante. Jamila Bargache.
Oui, c'est ça. On travaille en couple. Quelquefois, c'est une bonne idée, quelquefois, ce n'est pas le cas.
Et pourtant, la bonne idée, Jamila et Aïssa l'ont eue il y a 7 ans en installant sur les contreforts des montagnes un système déjà éprouvé au Pérou, au Chili ou encore en Tanzanie sur le Kilimandjaro. Il s'agit d'immenses panneaux tendus de filets qui piègent le brouillard, transformant l'humidité en une eau qui s'égoutte lentement et remplit des réservoirs. Jamila Bargache.
On a fait la preuve que le brouillard est une source valide et valable et pérenne. Donc on a utilisé l'excédent de l'eau qu'on avait dans une région où il n'a pas plu depuis 10 ans. Il y a une grande sécheresse, une vraie anxiété par rapport à la question de l'eau et à la pénurie d'eau. L'eau est absolument potable, c'est de l'eau pure. C'est excellent pour faire du café, vous faites le meilleur café, le meilleur thé. Donc l'eau, elle est absolument potable. Ensuite, elle descend dans des réservoirs. On a une capacité de stockage de 1100 mètres. Donc, les gens l'utilisent pour boire, pour se laver. Mais la particularité, c'est qu'on en donne aussi aux animaux. Bon, quelquefois, les femmes nous disaient, eux ne vont pas boire, mais ils vont donner à boire aux animaux. Alors, nous avons 16 villages qui sont connectés directement. Les ménages individuels sont connectés à l'eau, 127 ménages. Et nous avons une population qui, quand même, qui fluctue. On compte entre 700 personnes jusqu'à 1200 personnes. Ça dépend des saisons.
Une installation désarmante de simplicité, mais redoutable d'efficacité. Pourtant, quand Aïssa Derem a eu la volonté d'installer ses panneaux pièges à eau, les populations se sont gentiment moquées de son idée loufoque. Aïssa Derem.
Quand on venait pour essayer de faire nos premières expériences, les gens ils disent « ces gens-là, ils sont en train de se moquer de vous. Comment ils vont faire pour récolter le débrouillard ?» Et le jour où vraiment ils ont ouvert leur robinet, parce que le robinet à la maison, leur vie a changé. Vous avez maintenant des gens qui ont des chauffe-eau, des gens qui ont des machines à laver, tout le temps, alors qu'il y a des villages à côté. Et les pauvres, ils souffrent énormément. Il y a un souk qu'ils fréquentent et du souk on voit, il y a les montagnes. Ben eux, quand ils voient ces montagnes, puis regardent, ils voient qu'il y a du brouillard, ils disent tiens, un autre est arrivé. Vous voyez, et ça a changé complètement la perspective, complètement. On met un panneau de 1 mètre carré, un filet de 1 mètre carré qui est à une hauteur de 1 mètre 52 mètres au-dessus du sol. En général, quand vous avez une moyenne journalière de 5 litres par mètre carré par jour, ça veut dire que c'est bon. vous pouvez exploiter le brouillard.
Pour encourager Aïssa et Djamila, la Fondation Yves Rocher a décidé de remettre un prix à cette initiative, prix Terre de Femmes, car cette idée efficace de Darcy Mad a permis à des centaines de femmes de rester vivre sur leur terre, redevenue fertile. Marie-Anne Gasnier, déléguée générale de la Fondation Yves Rocher.
Nous, à la Fondation, on a réalisé un rapport justement sur cette question-là, sur le lien entre femmes et biodiversité. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que les femmes, en fait, de par leur rôle social, elles sont souvent les premières victimes, en fait, de la dégradation de la nature et du changement climatique. Et du coup, de fait, elles sont source de solutions parce que elles prennent les problèmes à bras le corps et elles baissent pas les bras et qu'elles sont encore malheureusement trop peu financées et trop peu mises en avant. Et voilà, c'est ce qu'on essaye, nous, c'est notre contribution, c'est d'essayer justement de pallier à ces déficits.
Avec 1 700 m² de filet, Djamila et Aïssa aimeraient en déployer le double pour rendre rapidement les villages de l'Anti-Atlas autonomes en eau, une petite goutte d'espoir dans un grand fleuve de volonté.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche. À la une de l'actualité internationale ce dimanche 6 avril, l'ONU dénonce le mépris sans borne de la Russie pour la vie des civils après la frappe qui a tué 18 personnes vendredi sur une ville du centre de l'Ukraine. 9 enfants font partie des victimes. L'Iran estime que dialoguer directement avec les États-Unis n'aurait aucun sens. Rejet donc d'une proposition formulée par Donald Trump pour renégocier le dossier du nucléaire iranien. Et puis en France, les soutiens de Marine Le Pen se rassemblent à Paris pour dénoncer la condamnation en première instance de la chef de file du RN pour détournement de fonds publics, ce qui pourrait l'empêcher de concourir à la présidentielle 2027. Adam Shafi Adam, c'est l'un des grands noms de la littérature en langue swahili. Originaire de Zanzibar, en Tanzanie, il est notamment l'auteur des Indociles, un livre qui a été traduit en français en début d'année, comme nous le faisions découvrir sur RFI, c'était en janvier. Pour cette rediffusion de notre chronique Chemin d'écriture, Tirankar Chanda vous plonge dans les pages de ce roman.
Dès qu'elle eut ses premières règles, Yasmine fut donnée en mariage. C'était un mari qui ne lui ressemblait en rien, ni par l'âge, ni par le tempérament. Là où Yasmine n'était qu'une gamine de 15 ans, Bwanaraza, son mari, était déjà un petit vieux de 52 ans. Là où Bwanaraza était déjà usé par les années, Yasmine n'était encore qu'une jeune fille, encore en herbe, qui ne connaissait rien à la vie. Yasmine alikuwa mtoto mbichi asielewa kitu chochote.
Ainsi commence Les Indociles, le roman traduit en français de l'écrivain tanzanien de langue swahili, Adam Shafi Adam. Ce dernier n'est pas totalement inconnu du public français qui avait pu lire il y a quelques années un premier roman sous sa plume avec pour titre Les Girofliers de Zanzibar. Considéré comme l'un des textes emblématiques de la littérature swahili, ce roman racontait la révolution de janvier 1964 qui marqua la fin définitive du régime féodal à Zanzibar. Les Indociles s'inscrivent dans la même veine politique et historique, si caractéristique de la fiction d'Adam Shafi Adam, si l'on croit sa traductrice. Aurélie Journeau.
Adam Shafi Adam, il est reconnu pour son écriture, qui s'intéresse beaucoup aux questions politiques et aux événements historiques aussi, qui sont liés à la révolution de Zanzibar, par exemple, dans Les Girofliers de Zanzibar, la grève des dockers dans Couli, un autre de ses romans. Je le vois comme quelqu'un qui s'intéresse toujours à saisir une atmosphère politique ou historique par le prisme de personnages qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, qui doivent continuer à vivre dans des situations, des circonstances historiques en constant bouleversement.
Grand roman d'amour, de fuite et d'apprentissage, Les Indociles évoquent les années 1950-1960, lorsque la Tanzanie livrait une lutte acharnée aux colonisateurs britanniques pour lui arracher son indépendance politique. Son héros Dengue, jeune intellectuel, est engagé corps et âme dans cette lutte anticoloniale. Or, l'indocilité que dépeint Adam Shafi Adam dans son roman n'est pas seulement politique, elle est aussi et peut-être surtout sociale. Le récit est raconté ici du point de vue de Yasmine, jeune femme indienne, et de son amie Mwazuma, femme swahili au grand cœur, qui n'a pas hésité à accueillir dans son minuscule taudi sa copine indienne lorsqu'elle s'est enfuie de chez son mari, deux fois plus âgée qu'elle. C'est d'ailleurs chez Mwazuma que Yasmine fait la connaissance de Dengue, dont elle tombe éperdument amoureuse. Mais leur amour se révélera impossible car la vie de Dengue est régie par les impératifs de la cause politique. Le roman raconte comment laissée à elle-même, les deux femmes trouveront le chemin vers le bonheur et la réalisation de soi. On a ici tous les ingrédients d'un grand roman féministe. La véritable originalité des Indociles, campée au carrefour du social et du politique, est peut-être à chercher dans sa narration où se mêlent inextricablement l'idéal de la libération collective et la quête de l'émancipation personnelle incarnée dans le récit par les protagonistes féminins, Yasmine et Moizouma. Aurélie Journeau.
Ici, dans ce roman, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la liberté collective d'un peuple qui cherche à se libérer du joug colonial va de pair avec la quête de Yasmine d'une libération ou d'une émancipation personnelle. Ça dit quelque chose aussi sur la façon dont la liberté politique ne peut aller sans une forme d'émancipation personnelle de tous les citoyens aussi. Yasmine, c'est un personnage quand même qui évolue grandement tout au cours du roman, qui grandit, d'une jeune fille qui rêve d'amour devient l'une des camarades de Dengue dans la lutte pour l'indépendance. Et il y a vraiment ce cheminement vers l'émancipation qui est tout à la fois personnel et politique et collectif. Oui. Donc je pense que c'est pas un hasard que les deux se fassent écho et se nourrissent l'un l'autre.
Cette intelligence narrative n'a sans doute pas été étrangère au succès populaire qu'a connu les Indociles auprès de son lectorat swahili.
Peintre, sculpteur, musicien, tout le monde connaît ses professions, mais c'est loin d'être le cas de tous les métiers de l'art. Des journées européennes étaient dédiées à leur découverte et leur valorisation. Cette 19e édition, elle s'achève aujourd'hui. Durant une semaine, des artisans ont ouvert au public les portes de leurs ateliers pour promouvoir des disciplines parfois méconnues. C'est par exemple le cas de Catherine Roman. Elle est rotinière, c'est-à-dire qu'elle tresse des objets à partir de fibres végétales, comme des paniers. Maria Afonso l'a rencontrée.
La vannerie, c'est un art de vivre. Alors c'est vrai que des fois, j'ai pas de week-end, que je bosse jusqu'à 10 heures. Mais il n'y a pas de contrainte. On a une liaison avec la personne, le designer ou l'archi. On sait qu'elle attend et on veut surtout lui faire plaisir aussi. Et moi, je suis capable de passer des heures comme ça. Par contre, quand je travaille pour moi, hein, d'accord, on verra si ça plaît.
Catherine Roman, rotinière et vannière d'art.
L'osier, c'est le rejet de l'année du saule. C'est quelque chose que l'on cultive. Nous, nous en cultivons et c'est cultivé en France. Par contre, le rotin, c'est un palmier rampant qui vient forcément un petit peu d'Afrique, mais d'Indonésie principalement. Il y avait 40 000 vanniers au début du siècle dernier, il y avait 20 000 rotiniers. Aujourd'hui, on est peut-être 3 rotiniers en France, voilà. Et en fait, rotinière-vannière, je suis un petit peu unique.
Catherine Roman est née dans le territoire de Belfort, dans l'est de la France. Première femme diplômée de l'école de vannerie en ameublement rotin, elle a commencé sa carrière à 16 ans. Sa rencontre avec la matière a révélé sa dextérité manuelle et sa créativité. En tant que femme, dans un métier historiquement exercé par les hommes, Catherine Roman insuffle une dimension de mouvement, légèreté et féminité à ses créations.
Mes sculptures, c'est des danseuses, mais c'est pas du tout figuratif. C'est les mouvements de danse, comment le corps il se met. Et c'est marrant parce que quand je faisais des expos, t'avais des gens qui venaient pour caresser les hanches et puis le bas du dos, alors que c'était ni hanches ni bas du dos. Je sais même pas s'ils ont vu que c'était une femme. Par rapport à ce que j'ai vécu dans tout ce que j'ai appris en vannerie pendant mes 25 premières années, j'ai voulu mettre de la féminité, de la rondeur.
Former les nouvelles générations est l'un des défis que représente la passation de ce savoir-faire traditionnel. Catherine Roman songe à aller plus loin.
Mon petit rêve à moi, c'est de monter une formation complémentaire de ceux qui ont eu les fondamentaux. Justement pour aller, t'as ça à faire, tu fais comment? Comment tu fais ton gabarit? Où est-ce que tu vas mettre? Pourquoi t'enlèves ça? Pourquoi tu vas serrer les montants? Ou pourquoi tu les prends plus larges? Parce que tu refermes. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'apprendre aux autres. Quand on commence quelque chose, il faut toujours penser à comment on finit. Moi, dans des sculptures, je le fais pas. 40 ans de vannerie, c'est bon. L'osier, c'est... Waouh, c'est géant.
Retrouvez l'univers de Catherine Roman sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso, c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Mickaël Goncalves était à la réalisation, à la fabrication du journal, Pierre Vallée, Karine Franck à la rédaction en chef. Restez bien sur RFI. Dans une minute, Juliette Pietraszewski pour un nouveau journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
Journée mondiale de la santé, gros plan sur la santé maternelle et néonatale.
Mardi.
Imagerie médicale, diagnostic, suivi et traitement des maladies.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
À la ligne, point. Pour avoir fait des dictées dans l'enfance, le souvenir en est douloureux. Mais Antoine Laurin en fait un roman quand une famille entière se lance dans la rédaction de la dictée de Mérimée, réputée être la plus difficile de la langue française. Objectif, zéro faute.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.